Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 26 mars 2024. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons commencer avec un sujet sociétal brûlant, à savoir la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Un collectif qui s'appelle Fin de vie, qui est non chrétien, mais qui mène notre combat, a décidé de défendre nos plus fragiles. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Nous irons ensuite en prison. Porter la bonne nouvelle, la prison, car c'est le lieu des assoiffés de Dieu. Et pour cela, je vous lirai deux témoignages de deux aumôniers de la prison de la santé à Paris. Le témoignage est dans Prier Magazine numéro 460. Je vous parlerai ensuite d'un poison qui tue à petit feu dans tous les couples, quelles que soient les années de mariage, les écrans. Je vous lirai les conseils de Bénédicte Lussereau dans le Famille Chrétienne numéro 2410. En portrait, je vous donnerai le témoignage d'un homme, père de famille, resté anonyme, qui donne son point de vue sur le désastre de l'avortement. Et il prend la parole, on va dire, se fait le porte-parole de tous ces hommes qui souffrent de l'avortement et qui n'en parlent pas. Le témoignage est en ligne sur le Salon Beige. Culture chrétienne, je vous lirai, ou présenterai rapidement, « Bonjour Espérance » de Monseigneur André Léonard et Père Henri Haas, un livre paru aux éditions Via Romana. Nous commençons notre revue de presse avec la question de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il se trouve que le collectif Fin de vie, sans forcément se réclamer de l'Église, a décidé de prendre la défense des plus fragiles, donc nos personnes âgées, nos malades. Je vais vous lire le communiqué qui est actuellement en ligne sur leur site findevie.org. Pourquoi refuser la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ? Aujourd'hui, les progrès de la médecine permettent de soulager les souffrances les plus réfractaires. Les soignants de soins palliatifs témoignent que lorsque les patients sont bien pris en charge, ils ne veulent pas ou plus être euthanasiés. L'euthanasie et le suicide assisté ne suppriment pas la souffrance, mais le patient. Ensuite, il y a la question de la liberté. Il est faux de dire que ce serait une liberté pour les uns qui ne change rien pour les autres. Nous devrons tous nous demander s'il n'est pas temps de partir plus vite pour ne pas peser sur notre famille, ne pas coûter trop cher à la sécurité sociale, ne pas être un poids pour les soignants. Les médecins feront-ils encore le maximum pour nous soigner ou nous sauver? Laisserons-nous mourir les personnes qui tentent de se suicider au nom de la liberté? La question du progrès. L'interdit de tuer est le repère fondamental de notre société. C'est la marque des sociétés démocratiques modernes. C'est pour cela que la peine de mort avait été abolie en 1981. Pourtant, l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas un progrès, mais une régression sociale. Quelles en sont les dérives ? Tous les pays qui ont ouvert l'euthanasie ou le suicide assisté, sous condition, n'ont cessé de les élargir. En Belgique, en 20 ans, les euthanasies ont été multipliées par 10. Des mineurs, des personnes dépressives ou âgées, des détenus sont euthanasiés. Au Canada, ce sont aussi des personnes handicapées ou sans domicile fixe. Et aux Pays-Bas, des personnes autistes. Le modèle de fin de vie à la française ne fera pas exception. Les dérives sont inévitables dès qu'on lève l'interdit de tuer. Et question business. Qui peut croire qu'on développera les soins palliatifs en même temps qu'on légalisera l'euthanasie et le suicide assisté? Il sera moins cher d'injecter un produit pour supprimer le patient que de mobiliser toute une équipe pour prendre en charge ses besoins physiques, psychologiques, humains. Les mutuelles le savent. Elles sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Notre collectif, Fin de vie, s'est visité, entourer, accompagner ses proches, sans jamais les abandonner. C'était le communiqué du collectif Fin de Vie que vous pourrez retrouver sur leur site findevie.org. Nous allons maintenant passer les murs de la prison pour porter la bonne nouvelle aux détenus. Je vais vous lire les témoignages des aumôniers de la prison de la Santé qui apportent donc soutien et écoute à ces détenus assoiffés de la parole de Dieu. Le témoignage est dans Prier Magazine numéro 460. Mardi matin, une grande femme brune et un prêtre coiffé d'une casquette se présentent à la porte de la maison d'arrêt de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Caroline est mère de famille et le père, Pierrick, prêtre de la Mission de France. Tous deux sont aumôniers de la prison. Ils passent de multiples contrôles, au cours desquels on leur remet la liste des détenus qui ont demandé à les voir, ainsi que les clés des cellules, privilège rare. Avant de commencer leur tournée, ils prient. Seigneur Jésus, remplis-moi de ta présence. Apprends-moi à être le sourire de ta bonté, pour qu'à travers moi, c'est toi qu'au fond d'eux-mêmes ils puissent rencontrer. Aide-moi à découvrir ta présence en chacun d'eux. Les aumôniers, qui portent un badge indiquant leur fonction, arpentent les coursives jusqu'à atteindre la porte d'une première cellule. Pour les personnes enfermées 22 heures sur 24, avec le brouhaha des télévisions, des cris, des coups frappés contre les murs, ces visites constituent des oasis de paix. L'important, c'est d'écouter. On ne sait jamais ce qui va se passer, nous dit le père Pierrick. On part de là où ils en sont. J'aime bien regarder les photos de leurs enfants ou leurs dessins. Ils parlent assez facilement de leur famille, de leurs problèmes avec l'administration. Très rarement de ce qu'ils ont fait. Ils nous disent des choses sur leur histoire, leur souffrance d'être loin des leurs. D'une compagne ou d'enfants, ils pleurent souvent. L'aumônerie de la Santé se compose de 6 aumôniers, prêtres et laïcs, ainsi que de 8 auxiliaires bénévoles d'aumônerie. Tous ont reçu une lettre de mission de l'évêque et un agrément de l'administration pénitentiaire. Ils assurent une présence les mardis et jeudis ainsi que les week-ends. Le samedi, un groupe de partage biblique est organisé, tandis que le dimanche, la messe est animée à tour de rôle par 6 groupes de prière parisiens. Autre activité proposée, un parcours alpha et une préparation au sacrement. Le soutien de l'équipe est essentiel pour les aumôniers. Elle permet de parler et de s'épauler dans les moments difficiles, par exemple lors du suicide d'un détenu. Dans cet univers de souffrance, où se côtoient des prévenus en attente de jugement et des condamnés qui purgent des peines courtes, la question de Dieu se pose forcément, nous dit le père Pierrick. C'est un milieu propice à l'introspection et aux questions essentielles. Ceux qui ont un reste d'éducation chrétienne réactualisent des choses transmises par leur grand-mère. D'autres qui n'ont rien reçu se posent la question de Dieu ou vivent des expériences fortes. L'un d'eux m'a raconté par exemple « J'étais dans ma cellule et j'ai senti une lumière en moi, une chaleur, et j'ai compris que cet amour ne m'abandonnerait jamais. » La mission des aumôniers est de leur montrer que Dieu est l'ami sur le chemin auquel ils peuvent se confier. Et il arrive régulièrement à ces aumôniers d'accompagner des demandes de baptême. En prison, les règles de l'administration pénitentiaire sont strictes. On ne doit rien apporter de l'extérieur aux détenus. Les aumôniers bénéficient d'une exception. Ils peuvent donner des timbres ainsi que la parole de Dieu. « Ils ont soif », constate le prêtre. Ceux qui n'ont jamais ouvert la Bible y entrent assez vite et y entendent des choses que je n'ai pas entendues. Quand ils se demandent « Comment puis-je être sauvé avec toutes les bêtises dont je suis responsable ?» L'exemple du bon larron leur parle beaucoup. Le psaume 50 aussi. Au terme des visites, les aumôniers se retrouvent pour un temps de débriefing et pour la messe. Les questions, les angoisses, les visages des détenus entrent dans l'Eucharistie, dans notre prière. Eux aussi prient pour nous. Dieu est présent derrière les barreaux. On s'édifie mutuellement et eux aussi nous évangélisent. C'était le témoignage de deux aumôniers de la prison de la Santé à Paris qui nous présentent justement la prison comme le lieu des assoiffés de la parole de Dieu. Vous pourrez retrouver ce témoignage dans Prier Magazine numéro 460. Nous allons maintenant du côté des couples, en compagnie de Bénédicte Lussereau, qui s'en prend à l'invasion des écrans dans l'intimité du couple et qui les tue à petit feu et de manière très sournoise. Les conseils que Bénédicte Lussereau donne et que je vais vous lire maintenant sont dans le Famille chrétienne numéro 2410. Quelle tristesse, ces couples qui ne prennent plus le temps ni la peine de se consacrer l'un à l'autre dans des rencontres de qualité permettant de remplir leur réservoir émotionnel. Bizarre impression d'être toujours ensemble alors que l'on est avec son smartphone dernier cri ou avec des amis virtuels sur les réseaux sociaux. C'est tellement commode. On peut me joindre partout sans savoir où je suis, on échange plein de photos sans avoir besoin de se voir, on se filme en s'envoyant cœur et smiley sans plus jamais se toucher ou s'embrasser. Une civilisation où l'amour se dirait sans le corps, où les émotions sont masquées par l'écran, où l'on peut asséner à l'autre des vérités sans dialogue vrai, où je peux séduire sans rencontrer la personne. Bref. Que de couples en souffrance à cause de l'invasion des écrans dans leur intimité. Éloignement, jalousie, infidélité, trahison. Bien sûr, le déploiement de nouvelles techniques offre aux couples de multiples possibilités. S'ils apprennent à discerner pour ne pas tomber dans l'addiction. Un exemple. Anne et Michael sont au bord de la rupture. Ils disent ne plus rien partager, ne plus se voir. Ils ont créé deux bulles hermétiques. Chacun a trouvé refuge, dans des jeux en réseau ou sur des sites où retrouver d'anciens copains et échanger des nouvelles intarissables et parfois très intimes. Tous deux sont hyper connectés, mais ils ont perdu la connexion entre eux. Ils ne se parlent plus que par texto. L'écran fait écran. Un texto engage beaucoup moins que la réalité. Si je culpabilise de rentrer tard du boulot sans avoir le temps d'acheter le dîner, j'aurai tendance à envoyer un message afin d'esquiver la réaction de l'autre et une franche conversation en face à face. Il est bien plus facile de dire sur messagerie quelque chose qui risque de blesser ou de mécontenter que de se confronter. Voilà une belle façon de se déresponsabiliser et de fuir la relation. À ce train, le couple se vide de sa substance et risque de dépérir. La vraie vie est celle qui se partage. Toute relation vraie, surtout conjugale, comporte le risque d'une blessure. Mais cette blessure n'est-elle pas le terreau de notre vulnérabilité partagée, de ce qui nous a attirés chez l'autre, l'humus de notre amour ? La vraie vie est celle qui se partage, dans la rencontre en chair et en os, dans le don et l'accueil d'une présence offerte, complète, pas en visio ou par téléphone. Comme les caresses finissent par manquer lorsque l'on est dans le virtuel, nous ne sommes pas de purs esprits. Rêver un monde technique où se voir ne coûterait rien, où l'on ne souffrirait pas, où l'on pourrait se passer l'un de l'autre est un leurre. Un monde d'intelligence artificielle, de personnes sans cœur, sans émotion. Nous n'avons pas été créés pour cela. Et notre cœur aspire à autre chose. Anne et Michael aussi. C'est pourquoi ils décident d'éteindre ordi et mobile 2 soirées par semaine pour se réapprivoiser et redonner une chance à leur relation. Ce n'est qu'une question de volonté. C'était les conseils de Bénédicte Lussereau qu'elle a donné à Famille chrétienne numéro 2410 sur l'invasion des écrans, ce poison qui tue les couples à petit feu. Je vais maintenant vous lire le témoignage d'un père de famille qui a été confronté plusieurs fois à l'avortement, ce père de famille est resté anonyme et a décidé de parler au nom de tous les hommes qui sont rentrés dans un mutisme de souffrance la plupart du temps. Ce témoignage est en ligne sur le Salon Beige. Ce témoignage ne juge ni encore moins ne condamne personne. Il est une ode à la vie. Je le dédie à tous les hommes qui ont tellement désiré être papa et qui n'ont pu l'être parce que leur épouse ou compagne en ont décidé autrement. Que les femmes sachent que c'est une blessure profonde qui les touche, qui nous touche. Une blessure que les hommes portent en silence. Je dédie aussi ce témoignage aux hommes qui ne conçoivent pas la merveille qu'est la vie qui vient. Vie qu'ils ont contribué à faire éclore, en passant. Je dédie ce témoignage aussi à toutes les femmes, celles qui hésitent, qui ont peur, qui subissent des pressions insupportables. Je veux leur dire que toute vie est belle, car il s'agit bien d'une vie qui vient, qui est déjà là, et toute femme le sait au plus profond d'elle-même. La preuve en est, connaissez-vous ne serait-ce qu'une seule femme enceinte qui dise autour d'elle « j'attends un fœtus » ou encore « le médecin m'a dit que mon tas de cellules se portait à merveille » Je voudrais aussi dédier ce témoignage aux femmes qui ont accepté, qui se sont battues envers et contre tout le monde, qui bien souvent élèvent leur enfant seule, avec un tel courage, une telle abnégation, que je n'arrête pas de les admirer et de leur dire « merci ». Ce sont elles les vraies héroïnes du temps présent. Et bien sûr, une dédicace à tous ces petits êtres qui ne pourront jamais dire un jour « papa, maman » en se blottissant contre eux. J'ai été confrontée à l'avortement 4 fois dans ma vie, dans ma famille. Lorsque nous avons appris que nous attendions notre 4e enfant, l'aîné en avait à peine 6. Nous étions en pleine faillite. Les huissiers venaient chez nous prendre nos meubles devant nos enfants terrifiés. Mon épouse allant jusqu'à mettre en gage sa bague de fiançailles pour aider à rembourser nos dettes. La loi Veil venait de passer et tous nos amis nous conseillaient d'avorter. Dieu comprendra bien avec tous les ennuis que vous avez. Y compris le chirurgien qui m'avait opéré d'une hernie discale 1 an auparavant. Monsieur, avec votre santé, la vie qui est la vôtre, il serait naturel que votre femme avorte. Aujourd'hui, notre 4e est une femme belle, intelligente, mère de 4 enfants. La 2e fois où j'ai été confrontée à la possibilité d'un avortement, c'est lorsqu'une de nos filles a attendu un enfant d'un homme qu'elle ne connaissait que depuis 15 jours. Elle était au chômage, lui aussi. Lui d'une culture totalement différente car bouddhiste. Elle, comme lui d'ailleurs, ce qui est tout à son honneur, ont voulu le garder. Pour certains, c'était de la folie. Nous les avons totalement encouragés, sans réserve aucune. Aujourd'hui, cet enfant est un adolescent beau. Sensible, intelligent. La 3e fois, ce fut lorsqu'une de nos filles a attendu un enfant qui était trisomique. C'est vrai qu'elle et son mari, homme généreux, ont voulu le garder. Nous les avons confortés dans leur volonté, toute vie étant un don de Dieu et valant la peine d'être vécue. Nous avons aujourd'hui une petite fille trisomique. La plus belle petite fille trisomique qui soit. La 4e fois, cela remonte à quelques mois. Une de nos petites filles a attendu un enfant alors qu'elle n'avait que 17 ans et son compagnon le même âge. Elle était heureuse de l'attendre. Son compagnon, après avoir grogné quelque peu, a fini par l'accepter. Là aussi, nous les avons confortés dans la joie et la beauté de donner la vie, même si cela peut paraître fou à un si jeune âge. Il y a 1 mois, est né un beau petit garçon. Il ne pleure, nous dit notre petite fille, que lorsqu'il a mal ou qu'il a faim ou qu'il veut être pris dans les bras. En conclusion, vous avez bien sûr raison de donner principalement la parole à des femmes qui ont vécu l'avortement, car 70%, si ce n'est plus, d'entre elles éprouvent des séquelles physiques ou psychologiques. D'ailleurs, Même pour ceux qui estiment que l'IVG est une thérapie pour supprimer un état de détresse, que dire d'une thérapie qui a autant d'effets secondaires ? Ne devrait-elle pas être interdite ? Combien de médicaments ont été retirés du marché pour beaucoup moins que ça ? Mais il est également bon que toute femme, que tout homme, sache que lorsque l'on fait confiance à la vie, on n'est jamais déçu. Il faut seulement avoir le courage de l'affronter. C'était le témoignage d'un père de famille confronté plusieurs fois à la question de l'avortement. Le témoignage est en ligne sur le Salon Beige. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter un livre de Monseigneur André Léonard et du père Henri Haas, paru aux éditions Via Romana et qui s'intitule « Bonjour Espérance ». Chaque jour, la télévision nous abreuve d'images glauques pendant qu'Internet se fait l'agent des pires atrocités. Ces sérums déprimants sont inoculés dans le cœur de toutes les populations du monde et les dépressions se marient au burn-out. Tout à coup surgissent deux pèlerins sur la route d'Emmaüs. Ils ne racontent pas leurs mémoires, ils échangent des souvenirs, partagent des expériences et respirent la vie comme un bol d'air d'espérance. Ils sont prêtres tous les deux. L'un est archevêque, ancien primat de Belgique, l'autre est comédien et metteur en scène. Tout pourrait les séparer, un seul les rapproche, le Christ. En Jésus, il n'y a plus de tristesse et guérissent les blessures. Avec le Christ, la paix, la sérénité et l'optimisme se conjuguent en un seul verbe, aimer. Monseigneur Léonard et le père Henri Haas sont prêtres jusqu'au bout de l'âme. Par la foi, ils soulèvent les montagnes, ils sautent au-dessus des difficultés. Ils évitent les pièges du malin et poursuivent la route d'Emmaüs avec celui qui est le seul chemin, la vérité et en fin de compte, la vie. Vous recommandez aussi de vivre non pas dans le regret du passé ou le désir de l'avenir, mais dans le présent. Monseigneur Léonard détaille au début de ce livre l'espérance est tournée vers l'avenir. Elle est même tournée vers l'avenir absolu. La lettre aux Hébreux ose la comparer à une ancre solide qui serait plantée non dans la mer ou en terre, mais dans les cieux, là où Jésus a pénétré par sa résurrection. En ce sens, nous sommes par l'espérance résolument tournés vers le futur. Mais comme nous ne disposons pas de cet avenir, comme nous n'en sommes pas la source, il serait vain de le rêver selon les fantaisies de notre imagination. Car comme dit saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La part essentielle qui nous revient donc est de nous engager, avec espérance, au cœur des souffrances du temps présent, sans nostalgie du bon vieux temps passé et sans rêvasserie de futurs idéaux. Alors, à ce propos d'engagement et d'amour, dans le livre, vous constatez la fragilisation de l'union conjugale et quelles en sont les raisons. La plupart des soutiens qui étayaient jadis l'union conjugale ont disparu aujourd'hui, à savoir la nécessité économique de travailler ensemble à l'entreprise familiale, la juste complémentarité des missions de l'homme et de la femme, la ferme réprobation des relations préconjugales et de l'adultère, le tout porté par des évidences sociales ou religieuses. Ce « corsetage » entre guillemets de l'institution conjugale comportait quelques excès. Mais il garantissait une solidité certaine. Aujourd'hui, l'union conjugale repose essentiellement sur le sentiment amoureux, ce qui est positif à beaucoup d'égards, à la condition que le sentiment de soi, fragile, soit soutenu par l'exercice fidèle et durable de la volonté. Car l'amour n'est pas que sentiment, il est aussi volonté d'aimer l'autre pour ce qu'il est et dans la durée du temps. La multiplication des expériences amoureuses préconjugales, la cohabitation avant le mariage à l'essai, n'ont manifestement pas consolidé la vie des couples. La vérité, pure et dure, peut décourager. Mais elle a besoin d'être belle pour toucher les cœurs. C'était un extrait de présentation du livre de Monseigneur André Léonard et du Père Henri Haas, intitulé « Bonjour, Espérance », paru aux éditions Via Romana. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne très rapidement les titres dont il a été question dans cette revue de presse du 26 mars 2024. Nous avons d'abord été en compagnie du collectif Fin de vie qui s'insurge contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Vous pourrez retrouver le communiqué que je vous ai lu sur leur site findevie.org. Nous avons ensuite lu le témoignage de deux aumôniers de la prison de santé à Paris, donc qui portent la bonne nouvelle en prison, la prison qui est le lieu des assoiffés de Dieu. Je vous ai ensuite lu les conseils de Bénédicte Lussereau sur ce poison qui tue les couples à petit feu, à savoir l'invasion des écrans. Les conseils sont dans Famille chrétienne, numéro 2410. En portrait aujourd'hui, je vous ai lu le témoignage d'un homme père de famille qui a été confronté plusieurs fois à l'avortement et qui se fait porte-parole de tous les hommes qui en souffrent et qui en restent muets. Le témoignage est en ligne sur le Salon Beige. En culture chrétienne, je viens de vous présenter à l'instant « Bonjour Espérance » de Monseigneur André Léonard et Père Henri Haas, un livre paru aux éditions Via Romana. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie mardi prochain.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était la revue de presse avec Claire. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.